Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres dont vous pourrez retrouver les derniers opus dans la page de l'émission Radicaux Libres sur le site radioalpa.com. On aurait pu vous parler cette semaine des activités de plein air. Mardi 31 mai, dans toute la France, des milliers de salariés du médico-social ont manifesté dans toute la France pour de meilleures conditions de travail et de meilleurs salaires. Au Mans, ils étaient 500, selon la presse locale, à se promener en ville, mais pas vraiment à se promener puisqu'il y avait force drapeau et revendications. Ils ont de la chance puisque tous ces gens du médico-social, puisque le PT de la REP lui-même s'intéresse à leur cas dans le cadre d'une campagne électorale pour les législatives, il a promis la création d'une, je cite, « mission flash » d'un mois. Donc en fait, une mission qui enjambe les élections. Mais pourquoi faire ? Eh bien pour connaître enfin les difficultés du monde de la santé et du monde du médico-social. Bah oui, parce qu'on est au courant de rien. Oui, depuis le mouvement de 2019, c'est-à-dire les grèves tout court, les grèves administratives qui touchaient des centaines, oui je dis bien des centaines de services d'urgence, un peu comme actuellement les fermetures. En décembre 2019, 250 services d'urgence sont touchés par les grèves administratives, les médecins ne remplissent plus les documents. Eh bien depuis les mouvements de 2019 qui ont suivi ceux de 2016, rien n'a filtré, non, rien n'a filtré des demandes des personnels de la santé et du médico-social. Mais non, on est au courant de rien, à tel point que le réélu par défaut a besoin d'un audit pour connaître l'état de santé de la santé et les raisons de la colère des personnels. Alors souvenons-nous quand même de ce bon mot, quand tu veux noyer un poisson, crée un comité ad hoc. C'est exactement ce qu'il vient de faire. Bon, ça rassure sans doute le bourgeois de savoir que celui qui a toujours raison fait dans le social, mais un appel national à la grève dans le secteur de la santé est prévu, lui, pour le mardi 7 juin. La CGT, rejointe par FO et par Sud, à la CFDT, on ne sait pas. Un rassemblement est prévu entre 12h30 et 14h devant l'EPSM de la Sarthe, l'établissement public de santé mentale, qui souffre. Ah ouais, la santé mentale souffre. C'est encore plus difficile de soigner les gens qui ont une maladie mentale que ceux qui ont d'autres types de maladies. Alors, imaginez, ça rapporte que dalle, la santé mentale. Donc, devant le PSM de la Sarthe, le mardi 7 juin, entre 12h30 et 14h, le PSM de la Sarthe, vous cherchez, c'est tout droit après la salle Jean Carmé, à l'Aune. Cette semaine encore, les salariés de Orpea, vous savez l'entreprise qui gère des EHPAD pour faire des bénéfices en ne donnant pas assez à manger à des petits vieux, et des petites vieilles qui ont sans doute bossé toute leur vie avant de ne plus être assez autonomes et donc se voir reléguées dans les mouroirs qu'on appelle aussi EHPAD. Eh bien, les salariés d'Orpea se font sucrer l'intéressement puisque Orpea, du fait du scandale, semble voir son bénéfice diminuer. Ils ont manifesté dans tout le pays et par exemple au Mans, c'était devant la résidence des maraîchers, rue des maraîchers. Eh bien, la semaine prochaine, il y aura sans doute encore des manifestations, sans doute encore des mouvements, sans doute encore des activités de plein air. On aurait pu vous parler de clientélisme. Tiens, depuis deux semaines, les annonces tombent. Une loi, dès cet été, sur le pouvoir d'achat. Waouh ! Mais comment ils vont faire puisqu'ils vont perdre les élections ? Eh ben, écoutez, ça s'est pas dit. Vendredi 3 juin, dans la presse régionale, on apprend que Emmanuel Macron veut réunir un Conseil national de la refondation. Oui, il y avait eu le Conseil national de la résistance, maintenant il y a un Conseil national de la refondation. Refondation de quoi ? Allez savoir. Bah, l'important, c'est quand même la com, hein, puisque tout le monde en parle en ce moment. Avec les forces associatives, avec les forces économiques, et même avec des citoyens tirés au sort. Tout ça va composer le Conseil national de la refondation qui aura pour but de refondation. Fondé. Eh ben oui, il nous refait le coup de la Convention citoyenne pour le climat, dont il avait retoqué lui-même plusieurs dispositions après s'être engagé à les laisser passer devant le Parlement. Toutes. Oui, on a le son, bien sûr. Bon, on ne l'a pas passé parce qu'on en a marre de l'entendre. Avec nos représentants actuels, on baigne totalement dans la démesure. Plus c'est gros, plus ça passe. Imaginez, parfois il y a 30 000 supporters en plus par rapport à ceux qui étaient présents. Mais bon. On va arrêter de tirer sur des ambulances. On le fera peut-être un peu tout à l'heure. Il s'est déjà déjugé la dernière fois, Emmanuel Macron, puisque avec la Convention citoyenne pour le climat, rien n'est passé dans la fameuse loi qui devait tout changer. Mais il continue de promettre des vessies pour des lanternes, sans aucun scrupule. D'ailleurs, je me demande, est-ce qu'il connaît le mot ? Ça va encore être comme ça pendant le reste de la campagne, une quinzaine de jours, des loups libéraux se faisant passer pour des purs démocrates, à l'écoute du peuple. Waouh ! Depuis quelques semaines, pas une petite phrase pour emmerder la population ou désigner ceux qui ne sont rien. Non, Emmanuel Macron, mauvais acteur s'il en est, se tient à carreau. Au niveau économique, idem. Le mis en examen pour corruption, Olivier Dussopt, bombardé ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion depuis la mi-mai, eh bien il est à l'écoute. Il est bienveillant. Il est même presque triste de devoir faire bosser les ressources humaines jusqu'à la fin de la vie. C'est la moyenne en tout cas. Jusqu'à la fin de la moyenne de la vie en bonne santé. Oui, quand ils font des calculs sur l'espérance de vie en bonne santé, on arrive à 65 ans. Bah, du coup, après, vous pouvez toujours mourir ou être malade, on s'en fout. L'important, c'est quand même que vous ayez bossé le plus possible. Et bah, le pauvre Olivier Dussopt, quand on l'écoute, quand on l'entend, il est quasiment triste d'être obligé de faire ça. Mais c'est une réforme nécessaire. Waouh ! Quelle bonté, quelle bienveillance! Le ministre de l'économie capitaliste lui-même, en direct à la radio, annonce que les aides vont continuer jusqu'à la fin de l'année. Mais comment ils vont faire puisqu'ils vont être battus aux élections? Eh bien ça, ils ne le disent pas. Mais ça sera pour les Françaises et les Français. Et il nous livre même ses croyances, comme n'importe quel prêtre. Écoutons-le dévotement.
Qu'en est-il de la prévision de croissance pour la France en 2022 dans ce contexte qui n'est pas brillant? Vous l'avez déjà ramené à la baisse. Est-ce que vous prévoyez combien pour cette année à la croissance? Est-ce qu'il y a un risque de récession?
Non, je ne crois pas à un risque de récession. Je reste très prudent parce que tout dépendra de ce qui peut se passer en Ukraine, de l'évolution dans un certain nombre d'autres pays, notamment la Chine. Il y aura une révision du chiffre de croissance. Je ferai la révision du chiffre de croissance au moment où je présenterai le projet de loi de finances rectificative, fin juin, début juillet.
Sur les questions de pouvoir... Ah, vous aurez reconnu l'incontournable Léa Salamé, qui écoute religieusement les prévisions du grand gourou du dogme libéral et qui répond à sa question, la question sur la récession. Elle explique pas ce que c'est, tout le monde le sait. Ah bah oui, c'est une baisse du produit intérieur brut et c'est quand même l'alpha et l'oméga de nos vies. Quand le produit intérieur brut baisse, c'est comme les quatre cavaliers de l'apocalypse qui arrivent pour les chrétiens. Bon, bah là, du coup, c'est le dogme libéral, lui, est basé sur des indicateurs économiques qui ne disent pas grand-chose, sauf que l'économie libérale se casse un petit peu la figure. Et bon, vu les résultats qu'elle a, je ne sais pas s'il faut continuer à la soutenir. En tout cas, le grand gourou, vous aurez reconnu un Bruno Le Maire qui a cette voix qui est très rassurante, eh bien il nous dit non. Il n'y aura pas de récession. Et juste après, il dit qu'il est très prudent. Mais bon, c'est pas grave, hein, parce que la petite phrase est lâchée, et c'est d'ailleurs la seule qu'il faudra retenir, et c'est la seule qui sera retenue. Pas de récession. En tout cas, il n'y croit pas. On est bien dans la croyance, mais bon, tant pis, puisque c'est le ministre de l'économie, capitaliste qui dit pas son nom, eh bien, on oubliera de l'interroger sur la notion de croyance. Non, on croira exactement ce qu'il dit, puisqu'il est quand même ministre de l'économie. La révision de croissance, elle se fera à fin juin, début juillet, où là, il nous dira « bah c'est moins 2 ». « Ah, bah c'est une récession ?»« Oui, mais non, alors attendez, j'ai très prudent. » En tout cas, c'est fin juin, début juillet. Encore et toujours ce message subliminal. Nous serons là, encore, après les élections. Tiens, à propos d'élections, dans la 5e circonscription, un candidat de l'Union citoyenne pour la liberté, l'UCPL, se présente à vos suffrages. Un certain Laurent Robin, et qui est une figure bien connue des manifs anti-pass qui ont eu lieu au Mans entre juillet 2021 et mai 2022. Ah oui, c'est fini, depuis le 14 mai. Bon, dans la profession de foi, rien de nouveau sous le soleil. Je retiens cependant trois phrases qui, à mon avis, donnent un petit peu la tendance de cette candidature où on nous dit qu'on veut des citoyens à l'Assemblée, des citoyens des vrais pour une démocratie, une vraie. Alors je cite « Réfléchir à un futur pour nous et nos enfants, basé sur des valeurs humanistes au sens noble du terme, à un monde où le travail est récompensé à sa juste valeur, à un monde où la population a foi en ses représentants, car ils viennent du bas de la pyramide. » Ouais. Alors de fait, pour lui, l'humanisme, remettre l'humain au centre, serait donc reconnaître ses mérites de ressources économiques. Ouais, on est toujours là pour bosser. Et en plus, donner foi à des représentants. Je trouve sa liberté un tout petit peu courte. Elle veut dire qu'il y a des représentants et qu'on est là pour bosser. On pourrait avoir un peu plus d'imagination en tant que citoyen. Bon, ben moi, pour l'Union citoyenne pour la liberté, je passe mon tour. On aurait pu vous parler du libéralisme dans la police. Oui, la main invisible du préfet de police de Paris est-elle à la manœuvre quand des forces de l'ordre gazent sans aucune menace des gens à travers une grille? Quelle émotion anime les flics et les pandores quand ils appuient sur une gâchette? Les excuses timides du compagnon de route de l'Action française devenu ministre de l'Intérieur, une ambulance, ne changent rien à l'affaire. Pourquoi des personnes en uniforme, harnachées comme pour aller à la guerre, peuvent s'en prendre en toute impunité à des Pékins moyens dont le seul défaut apparent à ce moment-là est de vouloir entrer dans un stade pour voir des millionnaires se passer un ballon? On parlera des violences policières la prochaine fois. Oui, il en est même qui veulent carrément abolir la police. Ça vaut le coup de faire un petit numéro de Radicolib sur eux. On s'en reparle. Mais finalement, Finalement, bah, on aurait pu aussi vous parler des nouvelles de la fin du monde. Ah oui, bah oui, puisque depuis le 30 mai, dans la région d'Aix-Marseille et de l'étang d'Aubert, il vaut mieux ne pas trop respirer. Une fois sur deux, souvenez-vous, l'adaptation. Puisqu'il y a un peu trop d'ozone. Les orages chassent tout ça, hein, mais voilà que ça revient. Bah, maintenant, c'est dans le nord-est du pays. Sans doute pour les mêmes raisons, trop de bagnoles, trop d'industries, trop de soleil. Et c'est parti. La solution, arrêter de produire tout et n'importe quoi pour le bénéfice des organisateurs de la société de consommation. On arrête tout. On réfléchit et c'est pas triste. Il va falloir le faire à un moment. Sinon, bah, il semblerait que le climat nous y oblige. Bah, parce que, en plus, dans les nappes phréatiques, bah, c'est pas beaucoup mieux et les autres surfaces non plus. Même dans le Maine libre, on en parle. Bon, un article par-ci, un article par-là, hein, beaucoup moins que les 24 heures du Mans. Une course de bagnole qui va occuper le terrain pendant une semaine avec des attractions, comme l'essai d'une voiture de frimeur dont le nom commence par P, comme la distribution de cadeaux en plastique ou en carton plastifié. En tout cas, beaucoup de déchets en perspective. On s'en reparle aussi la semaine prochaine, on y sera jusqu'au cou. Et en attendant, bah, on a préféré vous parler d'écologie, un peu la suite de ce qu'on a fait la semaine dernière. L'écologie, bah, devinez, c'est un petit peu l'écologie et l'attitude écologiste. Et bah, ce sont des choses qui ne sont pas compatibles avec la société de consommation et donc pas compatibles avec l'attitude du consommateur. On en a parlé la dernière fois. Je cite à nouveau Ernst Haeckel, biologiste inventeur du mot en 1866. Alors, à propos de l'écologie, il disait « C'est la partie de la science qui concerne l'économie de la nature, l'étude de l'ensemble des relations des organismes avec leur environnement physique et biologique. » Nous avons vu que la hiérarchie des sociétés humaines servait de modèle à l'attitude de la civilisation industrielle vis-à-vis de la nature. Et que paradoxalement, eh bien, les humains sont en recherche de nature. Une nature préservée des activités humaines auxquelles eh bien, nous participons tous les jours. Mais la véritable nature, ce serait en dehors de ce que nous faisons tous les jours. Donc là, le paradoxe nous amène peut-être à avoir les maladies mentales dont on parlait tout à l'heure. L'écologie ne peut pas faire l'économie de la présence humaine sur cette planète. Et donc des conséquences de ses actions. Toute autre ambition écolo serait partielle et n'aurait d'autre intérêt que d'éclairer, comme la société du spectacle sait très bien le faire, l'arbre qui cache la forêt. Les humains sont dans la nature et ils agissent inconsciemment, parfois en pleine conscience depuis que des lanceurs d'alerte publient chaque année, année après année, des sommes documentées, comme lorsque Rachel Carson, biologiste, écrit « Printemps silencieux » à propos des insecticides dont le DDT déversé à la tonne dans cette nature qui forme notre environnement. À nous tous, les êtres humains, en 1964, eh bien, elle explique que ces insecticides tuent non seulement les insectes, mais aussi abîment toutes les autres espèces vivantes, qu'elles soient végétales ou animales, y compris donc l'être humain. Je cite une partie de son ouvrage « Le printemps silencieux ». Le droit de savoir. L'histoire de la vie sur Terre est celle des actions et réactions entre les êtres vivants et leur environnement. Là, on retrouve la définition de Ernst Haeckel à propos de l'écologie. L'histoire de la vie sur Terre est celle des actions et réactions entre les êtres vivants et leur environnement. D'une part, en effet, l'aspect physique et le comportement des animaux et des végétaux ont été déterminés dans une large mesure par le milieu où baignaient des organismes. D'autre part, les créatures animées ont modifié la nature de leur entourage. Assez peu d'ailleurs, car une seule espèce, l'espèce humaine, a acquis la puissance nécessaire pour ce faire, et seulement depuis le début du XXe siècle, ce qui représente un nombre d'années insignifiant auprès de l'âge du monde. Depuis 25 ans, cependant, l'intervention humaine a pris une ampleur inquiétante et s'est orientée dans une direction qui l'est plus encore. L'homme, en effet, est en train de contaminer l'atmosphère, le sol, les rivières et la mer en y répandant des substances dangereuses, voire mortelles. Cette pollution est en grande partie sans remède, car elle enclenche un enchaînement fatal de dommages dans les domaines où se nourrit la vie, au sein même des tissus vivants. Dans cette contamination, maintenant universelle, du milieu naturel, les produits chimiques sont les dignes partenaires des éléments radioactifs. On leur attribue peu d'importance, mais ils modifient la nature même du monde, la nature même de la vie. Le strontium-90, libéré dans l'atmosphère par les explosions atomiques, revient sur la Terre avec les pluies, ou sous la forme des poussières appelées retombées atomiques, et pénètre dans le sol. Il en est extrait, en particulier, par les végétaux comestibles qui le font passer dans le corps humain, où il se loge dans les os à titre définitif. De même, Les produits chimiques répandus sur les cultures, les forêts ou les jardins s'accumulent dans le sol, puis s'introduisent dans les organismes vivants, passant de l'un à l'autre pour semer la maladie et la mort. D'autres fois, ils disparaissent mystérieusement dans les rivières souterraines et ressurgissent plus loin, où l'alchimie du soleil et de l'air les combine en de nouveaux éléments qui détruisent la végétation, déciment le bétail et empoisonnent les puits. Comme l'a dit Albert Schweitzer, l'homme peut à peine reconnaître les mots qu'il a créés de ses mains. Il a fallu des centaines de millions d'années pour produire la vie qui peuple maintenant la Terre. Des siècles de siècles pour permettre aux animaux et aux végétaux qui se développaient, évoluaient, se diversifiaient, d'atteindre un état d'harmonieux équilibre dans leur entourage. Celui-ci, le milieu naturel qui modelait et orientait rigoureusement les choses et les êtres, ne contenait pas que des éléments favorables à la vie. Certains rocs, par exemple, émettaient des radiations nocives. Et le soleil lui-même, source de toute énergie, envoyait de dangereuses ondes ultra-courtes dans sa lumière. Mais à condition d'en avoir le temps, un temps qui se compte en millénaires, la vie s'adapte. Et un équilibre s'est maintenant établi, car le temps est le facteur essentiel. Le temps, dont le monde moderne est si avare. La rapidité actuelle des changements, la vitesse avec laquelle se créent des situations nouvelles correspondent plus au pas de l'homme impétueux et réfléchi qu'à l'allure pondérée de la nature. La radioactivité ne provient plus simplement des émissions de roches naturelles et du bombardement de la Terre par les rayons cosmiques ou les ultraviolets du Soleil, phénomène antérieur à la vie elle-même. Elle résulte maintenant aussi des créations artificielles de l'homme qui joue avec les atomes. Les produits chimiques auxquels la vie doit s'adapter, ne sont plus seulement le calcium, la silice, le cuivre, les minéraux arrachés aux roches par les eaux et transportés par les fleuves jusqu'à la mer. Ce sont aussi les produits de synthèse imaginés par l'esprit inventif de l'homme, fabriqués dans ses laboratoires et sans équivalent naturel. Pour s'adapter à ces éléments inconnus, la vie aurait besoin de temps à l'échelle de la nature, c'est-à-dire de siècles. Si d'ailleurs, par quelques miracles, cette adaptation devenait possible, elle serait inutile, car un flot continuel de produits chimiques nouveaux sort des laboratoires, près de 500 par an aux États-Unis. On est en 1964, je vous le rappelle. Donc imaginez le chiffre actuellement. Ce chiffre est effrayant et ses implications difficiles à saisir. 500 nouveaux produits totalement étrangers à l'expérience biologique auxquels l'homme et l'animal doivent s'adapter, tant bien que mal, chaque année. L'adaptation. Ah, l'adaptation. Ah bah oui, Madame Pannier-Runacher et compagnie, les contempteurs de cette fameuse écologie qui ne doit pas être punitive, nous parlent tout le temps d'adaptation. L'adaptation, ne comptons pas dessus. Malgré les discours rassurants des technophiles vendeurs d'abeilles robots pour polliniser ou de voyages astro à la recherche d'une terre bis, ils sont là depuis le début de la civilisation industrielle à rêver de techniques pour neutraliser les effets produits par la technique. Eh oui, il va peut-être falloir à un moment s'interroger sur les conséquences de cette activité technologique. En 1965, dans un rapport officiel du comité de conseil scientifique de la présidence des États-Unis à propos des problèmes environnementaux et de la restauration de la qualité de notre environnement, eh bien, on peut lire ceci. Je lis la conclusion. Conclusion et résultat. Par le biais de sa civilisation industrielle mondiale, l'homme mène involontairement une vaste expérience géophysique. Depuis quelques générations, il brûle les carburants fossiles accumulés sous la surface de la Terre au cours des derniers 500 millions d'années. Le CO2 produit par cette combustion est injecté dans l'atmosphère. Environ la moitié y reste. Les réserves exploitables de combustibles fossiles sont suffisantes pour provoquer une augmentation de près de 200% de la teneur en dioxyde de carbone de l'atmosphère. Vers l'an 2000, on est en 1965, je vous le rappelle, vers l'an 2000, l'augmentation du CO2 atmosphérique se rapproche de 25%. Cela pourrait être suffisant pour produire des changements du climat mesurables et peut-être prononcés. Et cela produira de manière presque certaine des changements de la température et d'autres propriétés de la stratosphère. Pour le moment, il est impossible de prédire ces effets de manière quantitative. Mais les récents progrès de la modélisation mathématique de l'atmosphère, qui utilise de puissants ordinateurs, pourraient permettre de faire des prédictions utiles d'ici 2 à 3 ans. Petite parenthèse, on sait donc depuis les années 60 que l'effet de serre nous mène peut-être pas à une catastrophe, mais en tout cas à une modification drastique du climat. Je continue. Ces prédictions devront être vérifiées par des mesures rigoureuses. L'US Weather Bureau et ses collaborateurs devraient continuer à effectuer une série de mesures précises du contenu de CO2 dans l'atmosphère pendant les décennies à venir. Il faudrait élargir et intensifier l'étude des processus océaniques et biologiques par lesquels le CO2 est soustrait ou ajouté à l'atmosphère. Les températures à différentes altitudes de la stratosphère devraient être surveillées à l'échelle planétaire. Les changements climatiques susceptibles d'être produits par l'augmentation de la teneur en CO2 pourraient devenir délétères pour les êtres humains. Eh ouais, déjà 1965, on est au courant de tout. C'est la raison pour laquelle les possibilités de provoquer délibérément des changements climatiques compensatoires doivent être explorées minutieusement. Un changement de l'équilibre radiatif, dans le sens opposé à celui qui pourrait résulter de l'augmentation du CO2 atmosphérique, pourrait être produit en augmentant l'albédo ou la réflexivité de la Terre. Un tel changement de l'albédo pourrait être provoqué par exemple en répandant de très petites particules réfléchissantes sur les grandes portions de l'océan. Ces particules devraient avoir une flottaison suffisante pour rester proche de la surface de la mer et une forte réflectivité, de manière à ce que même une couverture partielle de la surface soit suffisante pour produire un changement significatif de la quantité de lumière solaire réfléchie. Des estimations grossières montrent qu'on pourrait produire suffisamment de particules pour couvrir partiellement environ 2,5 km² pour une centaine de dollars. Un changement de 1% de la réflectivité pourrait donc être obtenu pour environ 500 millions de dollars par an. Surtout si les particules réfléchissantes sont répandues aux basses latitudes où le rayonnement entrant est concentré. Au regard de l'extraordinaire importance économique et humaine du climat, les coûts de cette ampleur ne semblent pas excessifs. Un développement précoce de la technologie nécessaire pourrait avoir d'autres usages, notamment pour entraver la formation d'ouragans dans les zones océaniques tropicales. Eh oui, on rêve depuis les années 60, depuis qu'on sait que c'est une catastrophe annoncée, on rêve de modifier les choses grâce à la technique. Au lieu de s'interroger sur les causes, voyons les conséquences. Les apprentis sorciers soucieux de solutions permettent d'oublier l'essentiel. L'attitude écologiste n'est pas compatible avec la philosophie libérale en économie. Laisser faire, laisser passer et compter sur la main invisible du marché ne pourra jamais satisfaire aux exigences d'une vie humaine respectueuse des équilibres environnementaux. Et notamment le productivisme. Cet impératif capitaliste, qu'il soit libéral ou planifié, le productivisme, c'est produire sans besoin, en comptant sur la publicité pour créer l'envie de l'acheteur. Eh bien ça, c'est contraire à toute exigence écologiste. Les Verts, oui, ceux du parti, le savent depuis leur création. Un dictionnaire de l'écologie politique paru aux éditions du Félin sous le nom Le Livre des Verts en parlait déjà en 1994. Productivisme et productivité. Dans le langage courant, la productivité est définie comme la quantité de biens fournis pour un effort donné, habituellement mesuré en temps de travail. Les écologistes qualifient de productivisme la logique économique qui conduit à produire toujours plus en recherchant la productivité maximale, sans réduire pour autant le travail et sans prendre en compte d'autres contraintes comme l'utilisation des ressources naturelles, les effets de la production ou de la consommation sur les milieux ou les incidences sociales des évolutions. En ce sens, la logique dominante de l'évolution économique des deux siècles écoulés a été clairement productiviste, et ce, aussi bien dans les pays capitalistes développés que dans les pays qui se sont qualifiés de socialistes. Oui, à l'époque, en 1994, on n'est pas très loin de la chute du mur de Berlin, et donc de la chute de l'URSS et de tout le bloc de l'Est qui se disait socialiste. Alors, en fait, c'était du capitalisme planifié. Et donc, ce, aussi bien dans les pays capitalistes développés que dans les pays qui se sont qualifiés de socialistes ou dans le tiers-monde. On a donc du productivisme, en veux-tu, en voilà. Eh bien, il propose les Verts de changer de logique. Donc, la page suivante, après cette définition, on peut lire. L'exploitation d'autrui, la domination du tiers-monde, le saccage de la nature ne sont pas le résultat d'un dessein explicitement diabolique, mais le résultat pervers de la logique productiviste s'appuyant sur la division du travail. Les écologistes ne refusent pas la recherche d'une meilleure efficacité pour accroître le bien-être, et cela peut passer par une division du travail. Ils critiquent les excès, les rythmes trop rapides, le franchissement des seuils au-delà desquels les collectivités humaines perdent la maîtrise de leurs propres activités pour devenir le jouet de forces qui les dépassent, incapables d'ajuster leurs activités à leurs besoins et à leurs valeurs. Quand la famille d'un mineur bolivien meurt de faim parce que l'industrie du Nord n'a plus besoin de son étain, quand l'ouvrière du textile de Roubaix est au chômage parce qu'une fillette de Macao doit accepter de faire le même métier pour quelques francs par jour, quand enfin, afin de rembourser sa dette, le Brésil brûle sa forêt pour livrer un peu de viande à une Europe qui en produit déjà trop, comment l'humanité, incapable de se gérer elle-même, pourrait-elle gérer le patrimoine naturel qu'elle doit léguer aux générations futures ? Si elle ne réforme pas ses structures sociales, si elle ne change pas la logique de son activité, l'humanité se condamne elle-même tout en détruisant la nature. Il est temps de sortir du productivisme. Il faut pour cela rompre avec la démarche économiste elle-même, qui prétend que l'économie a ses propres règles autonomes, qui s'imposeraient aux hommes et résulteraient uniquement de comptabilisation quantitative, en omettant d'ailleurs soigneusement de quantifier les dégâts causés à la nature. Il faut Ce sont les Verts qui parlent en 94. Ah oui, ils ont changé depuis. Ah oui, Yannick Jadot et compagnie sont passés par là. Il faut inverser les logiques, remettre l'économie au service des êtres humains dans le respect du milieu naturel dont ils font partie. Cette volonté fait la spécificité du regard écologiste sur l'économie. L'anti-productivisme radical, oui, mais pas autre chose. Rappelons la pelote de l'attitude écologiste. La cohérence nous amène forcément à une action radicale dans le sens de s'attaquer aux racines du problème. On est obligatoirement anticapitaliste et antiproductiviste si on est écologiste. On ne peut pas combiner les deux. C'est antinomique. Donc, de fait, rappelons quand même certains propos, des propos d'un certain Bernard Charbonneau, publié dans Le Feu Vert, paru en 1980, à propos du fait de s'attaquer aux racines du problème. En réclamant le respect de l'écosystème terrestre qui a permis l'apparition de la vie et de l'homme, pour cela, seule l'écologie met en cause l'État social. Bien plus que le socialisme et le communisme, héritiers des valeurs de la société industrielle et bourgeoise, qui se contentent de revendiquer la direction de l'État et la socialisation du développement économique. Ce n'est pas seulement la religion du profit qu'elle rejette, mais celle de la production et de la rentabilité. Non seulement le règne des multinationales, mais celui de l'industrie. Le principe de l'écologie est subversif, même si l'écologiste est modéré. Il ne peut le rester qu'en trichant avec sa vérité. L'on commence par défendre les arbres et les jolies bêtes. L'on finit par se heurter au PDG et au préfet. On se bat pour un marais et contre un projet de logement. On finit par mettre en cause la croissance démographique. Comment renoncer à tel projet de marina ou d'usine sans renoncer au tabou de l'emploi ? On dénonce la pollution. Mais comment mettre un terme à celle du Rhin sans se poser le problème de l'Europe ? Et celle de la mer sans s'interroger sur l'état mondial qui seul semble pouvoir empêcher une catastrophe planétaire ? Pour sauver la nature, comment ne pas en confier la gestion à une synarchie de technocrates comme celle du Club de Rome, qui avait produit un rapport sur Halte à la croissance en 1972, qui en serait l'exacte antithèse. Comment imaginer une institution internationale ayant le moindre pouvoir qui respecterait la liberté et la diversité des peuples et des individus ? Partie de l'expérience des faits locaux, l'on aboutit au problème universel de la condition humaine. L'écologie est implacable. Elle vous mène jusqu'aux questions finales concernant le sens de la vie et le contrat social. La problématique écologiste est indivisible. Elle est forcée d'aller jusqu'au bout de son interrogation. Elle ne peut mettre en cause la dévastation de la Terre par l'homme sans s'attaquer à son principe actif, la science, et son héritière, la technique. L'explosion de la puissance humaine s'explique en partie par le fait que les vérités opératoires de la science ont succédé à celles mythiques de la religion. De fait, il va falloir s'interroger véritablement. S'interroger sur quoi ? Eh bien, sur les racines de notre problème. Mais de fait, ça résiste. Ça résiste et chaque seconde compte. Alors, pour que chaque seconde compte, eh ben c'est parce que chaque seconde, il y a du gaspillage. Alors, certains appellent à des bifurcations, voire à déserter, comme les Jones de AgroParisTech, qui avait lancé un appel à la mi-mai. Il y a également des choses plus locales. Par exemple, samedi 4 juin 2022 à 15h, Carrefour rue du Soleil et rue de Ruaudin au Mans. Une réunion publique pour la sauvegarde intégrale du bois du Fouillé. 26 hectares menacés par le gouvernement municipal du Mans. À 15h, découvrons les projets et les alternatives à ce que propose la municipalité du Mans. C'est au carrefour rue du Soleil et rue de Ruaudin. On chercherait sur une carte. Ouais, pas le GPS, c'est de l'énergie, le GPS, une carte. Ça se déplie, on regarde, on cherche rue du Soleil. Sympa, chercher la rue du Soleil, non ? C'est à 15h, carrefour rue du Soleil et rue de Ruaudin. Et bien du coup, nous, ça nous amène un petit peu tout simplement à la fin de cette présentation de l'écologie qui, je le rappelle, n'est pas compatible avec le productivisme. Alors la prochaine fois, quand on vous demandera votre avis, comme par exemple dans les urnes, ne votez pas productiviste si vous êtes écolo. On se quitte, on se dit juste à la semaine prochaine où on évitera de parler de quoi ? Bon, on évitera de parler de politique. Ah, je vous rappelle l'allumette ! L'allumette, allez voir, c'est 7 rue de la Marne. C'est ouvert samedi et lundi, oui, puisque c'est férié. Pourquoi ? Pour faire des travaux, allez donner un petit coup de louche. Lundi 6 juin, c'est de 10h à 18h. Et samedi, c'est aussi de 10h à 18h. En attendant, peut-être qu'on s'y croisera. En tout cas, on vous dit allez, au revoir.
Thank you.